Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Aujourd'hui, mon invitée est maître Marianne Rostand. Marianne est avocate au barreau de Paris depuis 2014 et elle intervient en droit pénal, notamment en droit pénal routier, mais elle a également développé une expertise en matière de droit pénal applicable aux rave parties, ou aux free parties, ou aux teuf, globalement. Et cela fait un peu plus d'un an qu'elle s'est installée à son compte. C'est d'ailleurs un de ses clients indirects, puisque c'est Alexandre Gardini, qui est étudiant et qui est membre d'une association qui organise justement des rave parties, qui m'a soufflé son nom pour le podcast, et je l'en remercie. Vous nous excuserez pour les bruits de fond pendant l'interview, puisque dans son cabinet, il y a pas mal de passages de clientèle, et on entend à un moment des enfants qui pleurent, etc. Donc voilà, c'est les bruits de fond de la vie du cabinet. Mais à part ça, accrochez vos ceintures, parce que vous allez voir, avec Marianne, ça déménage. On est face à un gros caractère, et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à prendre cette interview, enfin... Non pas qu'il y ait des interviews où je prenne pas beaucoup de plaisir, mais en tout cas là, vous m'entendez rire. Je voulais aussi vous dire avant de lancer l'épisode que j'ai lancé une formation sur la confiance en soi pour compléter l'offre de formation. Donc la formation Bien dans ma robe reste d'actualité. Vous pouvez vous inscrire pour la prochaine session qui aura lieu à partir de janvier. Mais en plus, il y a maintenant une formation sur la confiance en soi qui s'appelle Confiance en moi et que j'ai créée en collaboration avec une coach qui s'appelle Lamia Mzebla, qui a elle-même été avocate. Et ce que je voulais surtout vous dire, plus que cette formation, c'est qu'on organise un petit jeu concours de Noël, donc sur les réseaux sociaux, que ce soit sur l'Instagram de Fleur d'Avocat, si vous allez sur LinkedIn de Fleur d'Avocat ou même sur Facebook, il y a un post et si vous likez le post et que vous taguez, identifiez deux personnes avec qui vous aimeriez faire cette formation ou dont vous estimez peut-être qu'elles pourraient avoir besoin d'une formation sur la confiance en soi, enfin c'est difficile de tourner ça de manière élégante, mais en tout cas deux personnes qui selon vous pourraient en bénéficier, eh bien, il y aura un petit tirage au sort le 24 et potentiellement vous pourrez gagner une place pour la formation Confiance en soi qui aura lieu à partir de 20 janvier. Donc c'est 5 ateliers à partir de fin janvier et on vous propose de gagner une place, sachant que du coup c'est 12h30 de formation pour une valeur finale à 950, qu'en ce moment, comme c'est un tarif de lancement, c'est à 350€, mais c'est quand même un chouette cadeau de Noël. Donc voilà, n'hésitez pas à participer au concours de Noël. Sur les réseaux sociaux, je pense que vous trouverez assez facilement le post. Je voulais aussi remercier, comme toujours, vous toutes et tous qui laissez des avis sur les réseaux sociaux et notamment ou sur les applications podcast. Et là, par exemple, je voudrais particulièrement remercier Laura PZN qui a laissé l'avis suivant. Devant prêter serment dans quelques semaines, j'ai pu découvrir Fleur d'Avocat lors de mon stage final en cabinet d'avocat. Beaucoup de questions ont trouvé des réponses au fil des podcasts, surtout un retour d'expérience sur les différentes manières d'exercer. Au final, on peut être l'avocat que l'on veut être malgré les difficultés de la profession. C'est un podcast nécessaire pour tout jeune avocat et un réel plaisir d'écouter les divers témoignages. Merci pour cette découverte et merci beaucoup Laura PZN pour cet avis qui me touche beaucoup. Il me reste à moi aussi de vous souhaiter un très joyeux Noël et je vous dis à bientôt. Enfin, surtout à la semaine prochaine. Bonjour Marianne Rostand.
Bonjour.
Merci d'être mon invitée sur Fleur d'Avocat.
Je vous en prie, avec plaisir.
Marianne, racontez-moi comment et pourquoi vous êtes devenue Fleur d'Avocat. Non, pourquoi vous êtes devenue avocate. Oh là là, cette... Mais si, non mais ça marche en fait.
Ça marche.
Pourquoi vous êtes devenue Fleur d'Avocat? Pourquoi vous êtes devenue avocate?
Alors, pourquoi je suis devenue avocat? Déjà, si j'ai fait du droit, je pense que c'est exclusivement grâce à ma mère. Parce que très concrètement, moi c'est vrai qu'au lycée, j'avais pas spécialement d'ambition ou de projet professionnel. J'avais pas de voie d'orientation. Je crois que dans mon souvenir en terminale, je m'étais dit que je m'inscrirais à la fac du coin de la banlieue où je venais pour faire de la géo, je pense, parce que c'était la matière qui m'intéressait potentiellement le plus. Je pense que ça a beaucoup inquiété ma mère qui s'est dit que j'allais aller à la fac, traîner sur les bancs de la fac, ou pas d'ailleurs, parce qu'à ce moment-là, c'est vrai que bon, j'avais certaines facilités à l'école, mais du coup, j'étais pas hyper studieuse et pas très ambitieuse. Et donc, elle s'est dit qu'elle allait m'envoyer voir un monsieur Ripoll, qui était un type qui faisait de l'orientation, une espèce de conseiller d'orientation à son compte, et qui m'a dit, écoute, quand tu sais pas quoi faire, fais du droit, ça mène à tout potentiellement. Et donc, il m'a parlé d'une prépa. prépa Turgo, droit, économie, etc. Donc je me suis inscrite, c'était à l'époque, je pense, les choix APB, donc ça devait être mon premier choix. J'ai été acceptée et en fait, je n'ai pas du tout regardé ce que c'était jusqu'à peut-être une semaine avant la rentrée où je me suis tapé un coup de panique en voyant qu'il y avait, je sais plus, 6 heures de droit constitutionnel, des matières dont j'avais jamais entendu parler, je ne savais absolument pas ce que c'était. Mais donc voilà, j'ai commencé en prépa, du coup, en classe préparatoire, D1, donc c'est droit économie, c'est très intéressant en soi parce que c'est vrai que c'est hyper formateur, mais d'un point de vue de la culture générale aussi, c'est-à-dire que bon, le droit ça m'a plus tout de suite. Après, je suis assez studieuse et j'aime pas l'échec, donc c'est vrai que voilà, je suis pas forcément une immense bosseuse, mais comme j'aime pas rater, je travaille plutôt bien en général. Du coup, j'ai fait les deux ans de prépa à Normale Sup, c'est-à-dire qu'en rentrant en prépa, je savais même pas qu'on était censé passer Normale Sup au bout. C'était ça l'objectif, quoi. Pour moi, c'était juste un truc un peu plus carré qu'à la fac et on serait un peu mieux encadré. Donc, j'ai fait mes deux ans de prépa et après ça, j'ai intégré le magistère de droit des activités économiques. En fait, finalement, je crois que la plupart des gens qui étaient en prépa avec moi, j'ai un peu suivi le mouvement, quoi. C'est-à-dire que je me suis pas posé beaucoup de questions. J'ai fait du coup cette troisième année en droit de magistère de droit des activités économiques, donc c'est quand même très axé, forcément, activités éco, droit fiscal, etc., des matières qui n'étaient pas forcément hyper passionnantes à mon sens.
Et là, l'idée, c'était quoi?
Il n'y avait pas d'idée. C'était un peu le truc, quoi.
C'était toujours ça se passe bien, ça m'intéresse.
Exact. Enfin, je suis de mouvement, quoi. C'est-à-dire que effectivement, je pense que le droit, ça m'a quand même vraiment plu. C'est-à-dire la théorie du droit, etc. Je trouve ça très intéressant. Le raisonnement juridique, je pense que c'est quelque chose qui m'a plu. J'aurais sûrement pas continué non plus pendant des années. Mais c'est vrai que je suivais le mouvement sans me poser beaucoup de questions. En même temps, en fait, j'y repensais justement hier et je me disais, je devais avoir 20 ans, quoi. On est hyper jeune à 20 ans pour savoir ce qu'on veut faire de notre vie et dans quelle direction on va aller et ce qu'on veut faire. Donc je pense qu'à ce moment-là, j'avais pas vraiment de perspective professionnelle, quoi. Je faisais les études parce qu'il fallait faire des études, que je suivais un peu le mouvement de ce que faisaient la plupart des gens. Mais quand même, donc arrivé dans ce magistère, je pense que c'est en deuxième année, on doit faire un stage. Et un stage en administration. Donc je crois qu'on est une trentaine à peu près en magistère et tout le monde va faire son stage au ministère de l'économie ou dans des autorités indépendantes, etc. Et là, moi, je me rends compte très vite que même si sur le fond, je trouve ça assez intéressant, le droit, je me vois pas non plus passer 2 mois d'été dans un ministère ou à l'autorité de la concurrence. Je me dis que ça va pas du tout me passionner. Et donc je me dis, bon, bah la règle, c'est qu'on doit faire un stage en administration. J'ai pas du tout envie de faire ça dans un truc économique, ça me passionne pas. Et du coup, je décide à ce moment-là de faire un stage à l'administration pénitentiaire. Alors c'est pas forcément ce qu'ils attendaient, autant dire que dans le cursus d'activité économique, l'administration pénitentiaire, c'était pas vraiment dans le cadre.
Mais bon, du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour sortir du cadre comme ça?
En fait, je pense que je me suis très vite rendu compte que si en théorie ça m'intéressait, que je trouvais ça pas mal à étudier, etc., concrètement, je pense qu'à ce moment-là, on commence quand même à se poser la question. C'est-à-dire qu'on en deuxième année, donc on est en master 1, on passe en même temps le master 1 et le magistère, la deuxième année de magistère. Donc tout le monde va passer le barreau, en gros, à la fin de la première année de master. Donc c'est sûr que là, la perspective d'un avenir professionnel commence à se dessiner. Et je pense que depuis très longtemps, je me disais déjà qu'en fait, même si ça peut paraître un peu bateau de le dire comme ça, sur mon lit de mort, j'avais envie de me dire que j'avais été utile et que pour moi être utile, enfin non mais c'est vrai que voilà, pour moi mon intérêt ça a toujours été les gens, en fait ça a jamais été les entreprises, l'économie, etc. Donc très vite je me suis rendu compte que j'avais pas envie de me dire à la fin de ma vie que j'aurais fait de l'optimisation fiscale, que j'aurais permis à des sociétés de s'enrichir, etc., enfin que c'est pas ce qui me faisait vibrer, que c'est pas ce qui me passionnerait. Et c'est pour ça que ce stage en administration pénitentiaire, c'était un peu aussi un pied de nez dans le cadre du magistère, plutôt que voilà de foncer comme tout le monde le faisait vers des trucs économiques, ministère, autorité de la concurrence. Je me suis dit, administration pénitentiaire, ils peuvent pas me le reprocher parce que c'est une administration publique. Et en même temps, ça m'intéresse plus. Donc j'ai fait 2 mois de stage à la maison d'arrêt de Nanterre. Et là, effectivement, je me dis qu'en fait, le pénal, le civil, au moins le droit des personnes, ce sera vraiment mon choix. Que le droit des sociétés, etc., c'est en théorie intéressant, mais que je ne pourrais pas exercer là-dedans. Et à la fois aussi sur les conditions d'exercice. C'est vrai qu'on connaissait à ce moment-là, moi je ne connais pas d'avocat, en fait, j'ai très peu d'avocats dans mon entourage. Je ne vois pas vraiment ce que c'est la profession. Mais l'idée que j'en ai avec les gens un peu plus vieux qui font des stages, etc., c'est que dans ces branches-là, droit des sociétés, c'est souvent des très gros cabinets et qu'il faut être exploité jusqu'à 3h du matin et qu'en fait, faire du pénal, ce sera beaucoup plus cool. J'étais très naïve à ce moment-là, je ne savais pas ce que ce serait de faire du pénal en étant à son compte avec les permanences la nuit ou les comparutions immédiates qui finissent à pas d'heure. Mais voilà, mon idée à ce moment-là, c'est ça, c'est de me dire que la voie du magistère, c'est pas forcément la voie classique que je vais suivre comme les autres camarades de ma promo.
Je ramène juste un peu le micro. Voilà. Et donc, ce stage en administration pénitentiaire ?
stage hyper intéressant. Bah, c'est vrai que c'est un univers complètement différent auquel je suis confrontée, l'univers carcéral. C'est un stage qui se passe très bien, dont j'ai été très contente parce qu'on a pu se balader un peu dans tous les services, services éducatifs, discuter avec les détenus, directeur de la maison d'arrêt, l'établissement aussi pour les jeunes détenus, etc. Donc c'est vrai que ça a été hyper formateur, et là tout de suite je me rends compte que voilà, je ferai du pénal ou au moins du droit des personnes, et que le droit des activités économiques, ça, c'est pas pour moi. Et du coup j'intègre un master 2 de criminalité, c'est le terme exact d'ailleurs du master 2, de criminologie, pardon, à Paris 2. Où là, je décide vraiment de m'orienter vers le droit pénal, et parce que ça me fait beaucoup plus vibrer, j'ai l'impression en tout cas que c'est beaucoup plus ma place et que je serais beaucoup plus utile dans ce cadre-là.
Mais donc déjà, ce que je comprends, c'est qu'à ce stade, la perspective de devenir avocat est assez ferme. Enfin...
Bah, assez ferme, en fait, très clairement, je pense que je me sens même vraiment y penser. Bah, alors déjà, parce que j'ai l'impression qu'en fac de droit, quand même, 90% des gens pense à passer le barreau. C'est-à-dire que je m'étais pas posé beaucoup plus de questions, et je pense que j'ai toujours su que j'aurais été une extrêmement mauvaise juge et très mauvais procureur aussi.
Ah, pourquoi ?
Parce que je crois, j'ai trop foi en l'humain. Je crois trop en la rédemption des gens. Moi, si j'avais été juge, j'aurais jamais mis de mandat de dépôt. Enfin, je pense que j'aurais été très mauvaise pour juger. Je trouve que c'est la partie la plus dure, en fait. Autant défendre un point de vue, c'est assez facile. De plaider pour une cause dans un sens ou dans l'autre, finalement, pour ou contre la peine de mort. Celui qui décide, je trouve que c'est la position la plus difficile. Et c'est vrai qu'en tant que procureur, je trouve aussi que c'est très difficile comme position. Je pense que j'ai pas du tout ce côté fermeté, etc. Enfin, c'était pas vraiment pas fait pour moi. Moi, il suffit qu'un type me dise, mais je recommencerai pas, je suis désolée, je vais le croire. Moi, je crois. Non, mais c'est vrai, et même aujourd'hui, je suis toujours très naïve, même après mes 6 premières années d'exercice. Mais c'est vrai que j'aurais été très mauvaise juge, très mauvaise procureure aussi. Donc, avocat, c'est très bien pour moi.
C'est marrant parce que, et pour rentrer quand même en études de droit, parce qu'un conseiller d'orientation vous dit le droit ça mène à tout, et finalement on arrive en 4e, 5e année de droit et on se dit ben finalement à part avocat, juge ou procureur, qu'est-ce que je peux faire?
C'est ça qui est assez marrant parce que concrètement j'ai ce truc d'orientation, ça devait être un rendez-vous d'une heure, mais je pense que, alors je sais pas, je me rappelle pas des questions qu'il m'avait posées, mais c'est vrai qu'au fond avocat c'est un métier qui me correspond tout à fait, et je veux dire c'est pas parce que j'ai fait ces études que je me suis dit qu'avocat ça irait bien. C'est quand j'y pense, c'est vrai que j'ai toujours eu à cœur de défendre ou de porter la voix de ceux qui ne pouvaient pas le faire. J'ai toujours été contre l'injustice, contre la discrimination. J'ai toujours détesté à l'école, même au plus jeune âge, qu'il y ait des gens qui soient un peu rejetés tout seuls dans leur coin. Je pensais mes copains aller manger avec celui qui était tout seul à la cantine. Donc je pense que ce côté, effectivement, de faire rempart ou d'aider le faible contre le fort, ça a toujours été quand même un peu au fond, quoi.
Et donc, vous passez le CRPA. Et là vient le moment des stages.
Le moment des... Ouais,
et du coup, premier stage en cabinet d'avocat.
Alors en fait, j'avais fait des stages non obligatoires pendant la scolarité, à l'OIP, des petits stages en cabinet.
Et qui s'était passé comment ?
Alors, le tout premier stage, c'était chez une amie de ma mère en banlieue, etc. Donc c'était plutôt sympa, mais parce que j'avais pas vraiment de travail effectif à faire. Très clairement, les deux premiers vrais stages et les deux premières vraies confrontations avec la profession d'avocat, c'est beaucoup plus difficile.
Ouais.
C'est-à-dire que les deux premiers vrais stages que je fais en cabinet, ça se passe très mal. Le premier stage, j'ai voulu partir après la première journée.
Qu'est-ce qui s'est passé cette journée ?
Alors c'était avant, c'était dans le cadre du magistère où il fallait faire un stage en cabinet. Je ne sais plus exactement le cadre, mais c'était, je devais faire deux mois de stage. Je crois pas que c'était obligatoire, en tout cas c'était pas un stage final ou un truc comme ça. Donc j'avais trouvé un stage pour 2 mois chez un avocat. J'étais en 3e année ou quelque chose comme ça. Et en fait, donc quand j'arrive à 9h du matin, ils me demandent de faire des recherches sur un truc de déonto d'avocat. Sauf que forcément, en 3e année de droit, la déonto d'avocat, on n'y connaît absolument rien. Et il me rappelle une demi-heure après, complètement hystérique, parce que j'ai pas encore la réponse à ce qu'il m'a demandé. Donc il est 9h30 du matin, complètement hystérique, il pète un câble parce que j'ai pas la réponse. Je fais plein de recherches et 2 heures après il me dit en fait on s'en fiche, j'ai pas du tout. Enfin je m'en fiche, j'ai pas besoin de la réponse maintenant, alors qu'il avait hurlé 1 heure avant. Et moi ce côté effectivement d'ambiance très négative au départ où je me rends compte que c'est une pression folle, que personne n'ose déjeuner parce qu'il faut répondre au téléphone pendant l'heure de la pause, etc. Donc déjà je me dis que bon les conditions sont pas évidentes pour commencer. Et en fait je pars le soir à 19h30, ce qui me semblait tout à fait raisonnable comme premier jour de stage pour un stage non obligatoire, etc. Et là, sa collaboratrice ou les dames avocates qui travaillent avec lui m'appellent en me disant il vient d'appeler à 20h, quoi. Elle me dit il vient d'appeler, du coup j'ai raconté que t'étais enfermée dans les toilettes. Elle me relaisse un message en me disant j'ai raconté que t'étais partie à la boulangerie, faut absolument que tu me rappelles. Et moi je me dis mais pourquoi elle lui a pas juste dit qu'à 19h30 le premier jour j'étais rentrée chez moi, quoi. Et donc je me suis dit ça va être une ambiance terrible. Et donc voilà, j'ai appelé l'avocat en lui disant, écoutez, je pense que ça va pas le faire et que c'est pas pour moi, etc. Il m'a rassuré en me disant, vous inquiétez pas, ça va aller, ça va aller.
Ah donc, après le premier jour,
ouais. Ah ouais, parce que
vous avez appelé l'avocat, ouais. Vous lui avez dit, non mais en fait,
c'est
ça
pas
va
pour
pas
moi.
Le faire.
Ouais, ouais, parce que moi je sentais, enfin, moi j'ai beaucoup de mal, je sais que voilà, c'est toujours, il y a beaucoup de problèmes effectivement dans les premières collaborations, chez les stagiaires, dans les conditions, ça on sait, etc. Moi j'ai beaucoup de mal à prendre sur moi. C'est-à-dire qu'à un moment, si j'estime que c'est vraiment abusé ou que les conditions ne correspondent pas, je peux pas garder, j'ai du mal à prendre sur moi. Du coup, je crois qu'effectivement, le lendemain matin, je l'appelle en me disant, écoutez, ça va pas le faire, quoi. C'est-à-dire que si vous attendez d'une stagiaire qui est là le premier jour, qui a même pas de boulot affecté, etc., et vous pétez un câble, ou les autres se sentent obligés de mentir pour pas dire que je suis partie à 19h30, ça va pas être pour moi. Donc là, il me rassure, et très sympa, en me disant, mais non, j'attends pas la même chose de vous, vous inquiétez pas, ça va aller, etc.
Je comprends pas du tout pourquoi mon élève avocat vous dit ça.
Se sentir obligé de mentir, mais moi, pareil. C'est-à-dire que cette histoire de, on n'a pas le droit de prendre une pause déjeuner parce qu'il faut répondre au téléphone sur l'heure de déjeuner, etc. Enfin, moi, il y a un moment où je disais aux filles, je crois qu'il y en a une qui a eu le CAPA ou le CRF. FPA, elle voulait même pas sortir déjeuner pour fêter ça. Et je lui ai dit, écoute, on laisse le téléphone pendant une heure, ok, on fait un renvoi sur ton téléphone, mais on va sortir déjeuner une fois dans ta vie en 6 mois de stage, quoi. Et pour elle, vraiment, enfin, si j'avais pas incité à le faire, elle n'aurait jamais pris cette liberté de se faire une pause déj le jour où elle avait un vrai truc à fêter, quoi. Et donc voilà, je fais 2-3 mois de stage chez lui, et un jour il hurle dessus à 8h du matin alors que je suis même pas encore arrivée au travail, etc. Et donc là je dis, je rentre chez moi, j'arrête.
Donc c'était censé être un stage de 6 mois?
Non, moi c'est un stage de 2-3 mois, c'était un stage,
ah, c'est un stage de 2-3 mois.
C'est ça.
Et au bout d'un.
Enfin, ouais, je pense au bout
il repète un câble au bout de quelques semaines.
C'était quasiment tous les jours, et puis il fallait avancer les frais de poste. Enfin, je veux dire, on l'a tous connu, ça peut nous paraître. Enfin, c'est assez drôle parce que c'est vrai qu'on a tous plus ou moins finalement eu de mauvaises expériences pendant nos stages, quoi. Donc faut avancer les frais de poste, vous finissez à pas d'heure, vous faites hurler dessus en permanence sans raison, etc. Et moi c'est des ambiances qui m'affectent vraiment, quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est au-delà du travail, c'est-à-dire que vous y allez le matin avec une boule au ventre, vous rentrez le soir avec une boule au ventre, et un matin où j'étais déjà hyper stressée, il hurle dessus alors qu'il était 8h et que j'étais dans le métro, je pense que c'est à 9h le matin, qu'il était à peine réveillé. Et donc là, je dis, bah, écoutez, je rentre chez moi, j'en ai ras-le-bol, en fait, je suis pas obligée de faire ce stage, j'étais pas payée, ou j'étais censée payer 400€, je crois, ou un truc comme ça, pour les heures de boulot que je fais, car à un moment, je vais pas me pourrir la santé, et surtout, je vais pas me dégoûter de ce métier. Donc là, j'arrête. Alors, il y a eu encore plus, en me disant que je veux pas mettre les mains dans le cambouis, et que je m'en sortirai jamais si je suis pas prête à, mais je me dis, bah, écoutez, très bien, peut-être que je suis pas faite pour ça. Et c'est vrai qu'avec le deuxième stage, mon stage final, là, pour le coup, qui aussi se passe difficilement, je pense qu'à un moment, j'étais pas loin de me dire, en fait, ce métier n'est pas fait pour moi. Parce qu'autant tous les stages que j'avais pu faire en administration pénitentiaire, à l'Observatoire international des prisons, dans des structures où Paris aide aux victimes, etc., je trouvais qu'en soi, le droit, etc., ça me plaisait vraiment. Mais c'est vrai que les premières confrontations avec les métiers d'avocat, je les trouve extrêmement dures. Et puis vous avez aussi autour plein de copains, vous vous rendez bien compte que c'est pas vous qui êtes la plus malchanceuse et que vous tombez sur tous les stages où ça se passe mal. C'est que vous vous rendez compte qu'il y a plein de gens qui sont extrêmement malheureux et qui vivent très mal les stages. Et c'est pas juste parce que c'est pas cool ou qu'on n'est pas très bien payé, je veux dire, la rémunération, c'est pas pour ça qu'on y va. Mmh. Mais c'est vrai que quand vous avez une pression monumentale, qu'on vous hurle dessus, comme si vous étiez la dernière des débiles, que vous êtes obligé de rester jusqu'à 23h le soir, etc., alors que vous êtes quand même pas payé grand-chose, moi je trouvais que c'était pas la bonne manière de former un avocat. Et c'est pour ça que pareil, mon stage final, je l'ai pas fait jusqu'au bout.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Stage final, bah, pareil, hyper... hyper compliqué dans les conditions déjà matérielles d'organisation du stage. On est en permanence avec le téléphone à côté, un stylo et un truc, parce qu'on sait qu'il peut nous appeler à n'importe quelle minute pour lui demander de rédiger en urgence des conclusions qu'il faut lui apporter en 3 minutes 50 au tribunal. On se fait pressionner, menacer par des clients qui sont pas contents. Je me retrouve le soir à devoir rester jusqu'à 23h au cabinet parce qu'il y a des clients qui ont rendez-vous et que lui est toujours pas là et que je sais pas où il est. Donc je suis bloquée toute seule au cabinet à faire patienter des gens qui pètent des plombs. Et en fait, il y a 2 associés au cabinet à ce moment-là, 2 collaboratrices et une secrétaire. Et en fait, en l'espace de 3 semaines, la secrétaire, les 2 collabs, en fait, tout le monde part. Et donc, il devait rester que moi. Et je me dis que déjà, quand on était 5 avec les 2 collabs, la secrétaire et compagnie, c'était des conditions qui étaient terribles. Je me dis, moi, là, toute seule. Et donc, je suis allée le voir. Et je lui ai dit, j'ai l'impression de quitter le navire qui est en train de couler, mais c'est pas mon navire. Donc, en fait, si ça coule, ce sera ça. Non, mais c'est vrai. Il y a un moment...
Non, mais voilà. Il y avait vraiment dit ça, le navire.
Bien sûr.
Ah, j'adore.
Et lui, il m'a répondu que voilà, on bossait pas assez. Et je lui ai dit, mais à un moment, on peut pas faire plus, quoi. C'est-à-dire que on bosse du matin jusqu'au soir, on est là jusqu'à 23h, on prend pas de pause déj. La collab, il pouvait l'appeler à minuit pour lui dire, c'est toi qui peux être le dossier demain, matin. Enfin, c'est dans 6h, quoi. Voilà, c'était du stress permanent, de l'angoisse permanente, des clients pas contents. Et moi, je me disais surtout qu'en fait, je me rendais compte que si ça continuait comme ça, ça allait me dégoûter de ce métier et que je ferais pas ce boulot. Et donc, il y a un moment, moi, je préfère prendre sur moi, enfin, me protéger en tout cas plutôt. Donc voilà, je suis allée le voir et au bout de 3 mois, alors que c'était pas évident de quitter un stage final.
Bah non, stage final, en plus c'est compliqué. Vous avez été défendu par le FB ou pas?
Alors défendu, non, en fait j'ai pris rendez-vous avec le FB en leur expliquant la situation, en leur expliquant que moi je pouvais pas continuer comme ça. Je m'étais arrangée, j'avais trouvé un autre stage en fait du coup pour valider les 3 derniers mois du stage final parce que ça c'est obligatoire. Donc j'avais dû mentir un jour et me barrer en catastrophe, faire un rendez-vous à l'autre cabinet pour avoir une solution de repli. Et moi j'ai été voir l'école surtout pour leur dire en fait il y a des conditions qui sont invivables. Et en fait je sais que cet avocat, il avait des collaboratrices qui tenaient jamais plus de 3 mois et c'était pareil pour les stagiaires. Et ça l'école le sait, l'ordre le sait.
Et personne ne fait rien.
Bah moi ils m'ont dit, il va être en gros blacklisté, il n'y aura pas de nouveaux stagiaires qu'on enverra dans son cabinet, etc. Parce que ça se passe pas bien, mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a absolument pas été le cas. Et je pense qu'il y a plein de cabinets comme ça, enfin je veux dire entre avocats ou entre stagiaires, on le sait les cabinets, ça se passe pas forcément bien ou c'est difficile. Et j'en ai recroisé après, hein, parce que du coup quand vous avez des collaboratrices qui tournent tous les 3 mois, on a un certain nombre du coup d'anciens ou d'anciennes du cabinet à se recroiser. Quoi. C'est vrai que moi quand j'en croise des cabinets, ah bah je suis en stage là-bas. Courage mon petit, ça va aller, ne te laisse pas faire, tu survivras quoi. Mais ouais, ça a été très difficile. Mais moi j'ai préféré, je savais que ce serait compliqué, c'est vrai que quand je le recroisais après, c'est pas évident non plus. C'est quand même un avocat qui a une certaine réputation, qui est intégré, etc. Quand vous êtes jeune stagiaire, de vous dire, bon bah je vais aller expliquer à l'ordre ou à l'école ce qui se passe et je vais quitter le stage au plein milieu en sachant que lui va peut-être derrière me faire une réputation pas possible ou dire que je suis extrêmement mauvaise, etc. Mais voilà, il y a un moment où je me suis dit, de toute façon, sinon je ferais même pas ce métier, quoi. C'est-à-dire que si je vais jusqu'au bout de ce stage, ça va me dégoûter de cette profession et de toute manière, je ne pourrais pas continuer. Donc autant partir maintenant en lui disant, effectivement, débrouille-toi avec ton navire qui est cool, moi j'y vais, quoi.
Et l'autre cabinet après ? Et du coup, vous avez terminé votre stage final ?
Ah bah après très simple, alors du coup j'avais été recrutée dans le cabinet d'une avocate, je peux dire son nom Cathy Richard, qui a été très sympa, qui a compris la situation, que j'étais un peu désespérée, donc elle avait pas besoin en soi d'un stagiaire effectif, etc. Mais elle m'a quand même pris en stage pendant 3 mois, et c'est sûr que ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même ambiance, c'est pas du tout les mêmes conditions de travail, c'est des horaires normaux, elle m'emmène faire des reconstitutions, scènes de crime sur des trucs hyper cool, hyper sympas, et donc ça me redonne effectivement un peu foi dans la profession, et où je me dis qu'on peut exercer dans de bonnes conditions, parce que moi je suis de nature assez stressée, c'est pour ça que le boulot d'avocat, pas forcément le métier le plus simple à choisir, mais ça fait du bien de se rendre compte qu'on n'est pas obligé d'aller tous les matins et de rentrer tous les soirs avec une boule en ventre et l'envie juste de quitter le pays tous les jours, quoi. Donc ça me fait vraiment du bien. Ça montre d'autres aspects de la profession, une autre manière de travailler, à la fois avec les collaborateurs, aussi avec les clients. Enfin, je veux dire, c'est un ensemble de choses. Quand dans un cabinet, ça va pas. En général, c'est sur plein de plans. Et donc là, je me dis que oui, en fait, ce métier peut être vraiment, vraiment cool. Enfin, cool, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, peut être vraiment sympa à exercer dans
le monde. Non, mais en tout cas, ça vous a plu et vous vous êtes plus projeté en termes de manière d'exercer, quoi.
Ouais, je pense que si je m'étais retapé 3 mois comme les 3 mois d'avant, clairement, j'aurais fait autre chose. Je me serais dit, ce n'est pas une vie pour moi, je ne suis pas capable. Et c'est pour ça que j'admire aussi les gens qui arrivent à se faire des stages ou des collabs dans des conditions terribles et sans jamais rien dire et en prenant sur eux. Moi, je ne suis pas capable. J'en suis incapable, c'est-à-dire que je vais tenir 1 ou 2 mois et à la fin, je vais péter un plomb et leur dire, les gars, c'est pas possible. En fait. Je suis pas là pour travailler tous les jours jusqu'à 2 heures en me faisant en plus traiter comme un chien. Il y a un moment, ça va.
D'un autre côté, souvent, ceux qui encaissent sans rien dire, au bout d'un moment, ils craquent et ils partent.
Bien sûr, même le craquage, je sais pas. De toute façon, je pense que physiquement, ça se voit. Quoi. Ouais, c'est-à-dire que je sais pas prendre sur moi. Si je trouve que
Et vous, 6 ans plus tard, vous êtes sur fleur d'avocat. Et c'est quand même un accomplissement exceptionnel.
Ouais, j'ai mon propre cabinet. Je suis bien contente. Mais c'est aussi parce que, je pense que si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que même en collaboration, il y a un moment où j'ai préféré me dire, bon bah je prends le risque de me mettre à mon compte plutôt que de continuer à bosser dans un truc qui ne me rendait pas heureuse, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, je préfère prendre le risque plutôt que de perdurer dans une situation qui est pour moi intenable. Parce que moi, quand quelque chose m'angoisse, me stresse, me plaît pas, ça me ronge vite, ça prend des proportions impossibles et je vais pas me pourrir la vie pour un boulot, quoi.
Et du coup, vient l'heure de chercher une collaboration.
Vient l'heure de chercher une collaboration, du coup, après ce stage final passionnant.
En tout cas, une deuxième partie de stage final très chouette.
Deuxième partie de stage final très chouette. Donc, clairement, je savais qu'il n'y aurait pas de collab là où j'avais fait mon stage final. Et puis, c'était à Pontoise, chez Cathy Richard. Moi, je suis originaire du 95, mais j'avais envie quand même d'exercer à Paris et d'être avocate au barreau de Paris. Et du coup,
pourquoi vous aviez envie d'être avocate au barreau de Paris, particulièrement ?
C'est surtout que je voulais pas aller dans le 95 parce que sinon je me disais que potentiellement je retournerais vivre chez mes parents comme j'avais pas forcément beaucoup de moyens etc au départ. Voilà, je suis parisienne, j'avais hésité à, par exemple j'aurais pu m'inscrire au barreau de Bobigny, mais clairement j'aime pas le TGI, je trouve ça pas cool, pas beau, pas sympa etc. Donc voilà, j'étais parisienne, j'ai pas mal de copains qui sont installés au barreau de Paris. Donc voilà, je m'étais dit que quelques années peut-être plus tard je pourrais chercher ailleurs, mais pour l'instant j'avais vraiment envie de rester à Paris. Et donc quand j'avais fait ma prépa normale sup dans les premières années, on a été une bande de copains très bien s'entendre et avec qui on a gardé de très bons contacts. Et donc c'est un copain de l'époque qui était collaborateur dans un cabinet qui faisait, parce qu'ils ne font plus d'ailleurs, du pénal, principalement du permis de conduire. Et qui me dit que le boss cherche une collaboratrice qui puisse faire effectivement du droit pénal et qui puisse aussi gérer 2-3 dossiers en droit commercial, etc. J'en avais jamais vraiment fait, mais c'est vrai qu'en ayant fait ce magistère de droit des activités économiques, c'est l'avantage aussi avec ce magistère, c'est que j'avais fait plein de matières, etc., de droit commercial, de fiscal, etc. Et donc je suis recrutée dans ce cabinet en première collaboration, et donc principalement en droit pénal routier, ce qui était 90% de l'activité que je faisais à l'époque.
Ouais. Et
alors très sympa, complètement différent parce que pour le coup le patron est plutôt du genre il y a des citations de Bouddha au mur, il achète des huiles essentielles pour qu'on soit calme et détendu, donc il n'est pas du tout, enfin voilà, c'est quelqu'un qui s'énerve pas du tout, et pour moi c'est important aussi en fait dans les relations de travail, c'est-à-dire qu'en soi il peut y avoir du boulot, de la pression, du stress etc, mais c'est pas la peine d'en rajouter en hurlant sur les gens et en balançant les dossiers à travers la pièce comme tu peux le voir parfois quoi. Moi en tout cas c'est pas du tout comme ça que j'aime travailler. Et du coup, non, ça se passe très bien. On est 6 ou 7 collaborateurs, tous très jeunes. Il y a pas mal de stagiaires parce que c'est un cabinet qui fait quand même de la masse. Donc il y a pas mal de stagiaires, mais c'est vrai que l'ambiance est quand même très détendue. On a un patron sympa qui, deux fois par an, paye des soirées au cabinet, on fait des grosses fêtes, etc. Donc beaucoup de boulot, mais dans une ambiance très détendue, et moi j'ai vraiment besoin de ça. Donc non, très bien. Après le pénal routier, c'est vrai que c'est assez lassant. C'est beaucoup de déplacements aussi, parce que du coup on intervient dans toute la France. Donc c'est des trains de nuit pour aller en audience à Toulon. Des 8 heures de trajet pour aller plaider un feu rouge à Grasse, etc. Donc voilà, 4-5 ans, ça se passe bien. Je me suis fait des bons contacts avec mes confrères. C'est aussi bien d'être dans une structure où il y a plus de collaborateurs par rapport au petit cabinet que j'avais fait en stage où c'était un associé seul, un avocat seul avec parfois des collaborateurs ou juste des stagiaires. Là, le fait qu'on soit nombreux, c'est quand même bien. Il y a 3 départements différents, droit de la famille, droit du travail. Ça permet aussi de toucher à d'autres matières, parce que je suis amenée à faire aussi du divorce, à gérer ou à plaider quelques dossiers en droit du travail. Et avec des confrères vraiment très cool. Donc c'est vrai que c'est une bonne expérience. Mais au bout de 4-5 ans, 4 ans, je pense, j'en ai ras-le-bol. C'est-à-dire que je me rends compte aussi qu'il y a énormément de déplacements, ce qui est quand même très fatigant. Ça devient un peu rébarbatif, le pénal routier. C'est-à-dire que quand vous faites du droit pénal, vous ne vous dites pas que c'est pour aller plaider des feux rouges ou faire des contestations d'infraction. Ouais. Vous avez envie aussi d'avoir d'autres types de dossiers. Et donc, mon patron décide en fait à ce moment-là de fermer le département de droit pénal et droit pénal routier. Parce que
alors même que c'est 90% de son activité ?
Non, c'était 90% de mon activité à moi, mais lui, en termes d'honoraires, je pense, et de rentrée, etc., je pense
que pas.
Ouais, le divorce, c'est beaucoup plus simple, il y a moins de trucs à gérer, etc. Il n'a pas forcément... De toute façon, il n'était pas forcément dans une logique d'encaisser des honoraires. On avait des honoraires qui étaient assez faibles, je vais le dire comme ça. C'est vrai que c'est pour ça que c'est aussi compliqué, après, quand vous vous installez à votre compte et que vous êtes travaillé dans un cabinet qui fait des honoraires assez bas.
Parce que du coup, les référentiels sont...
C'est ça, exactement, les référentiels sont hyper bas. Après, c'était sa logique à lui, c'est-à-dire qu'à chaque convention d'honoraires, il plante un arbre en Amazonie, et il verse 2 euros pour une école en Inde, il fait des tarifs spéciaux pour les gens qui gagnent moins de 2000 euros par mois. Enfin voilà, c'est très bien, en fait, que dans la profession, on a tendance à penser que les avocats en manquent après l'argent. C'est bien d'avoir quelqu'un qui est un peu au-delà de cette logique, mais c'est aussi ce qui entraîne à fermer les départements, c'est-à-dire qu'à un moment, quand vous faites des honoraires vraiment bas et assez faibles, même si ça part d'une bonne intention, c'est sûr que financièrement il a énormément de charges, payer les collaborateurs, les locaux, les stagiaires et tout, donc je pense que pour lui c'est pas extrêmement rentable, donc il décide d'arrêter le département pénal droit du travail, conserver que le droit de la famille. Du coup il me ferme mon contrat de collaboration. J'avais heureusement pris l'assurance perte de collaboration, ce qui me permet d'avoir un pseudo chômage pendant 6 mois et en tout cas de voir venir.
Et vous l'avez pris comment, ce moment ?
Bah, plutôt bien. Enfin voilà, au cabinet, il y a eu des problèmes de santé de certains, d'autres qui étaient en arrêt maladie, congé maternité, etc. Donc de toute manière, moi j'étais assez contente de partir du cabinet. Et puis c'est surtout que très vite, je me dis qu'en fait, je serais pas capable de rebosser en collab, parce qu'en fait, dans ce cabinet, on était très autonome, c'est-à-dire que le patron gérait pas du tout les dossiers de pénal, il connaît rien, c'est pas du tout sa matière, quoi. Donc il y avait l'autre collaboratrice qui, elle, avait 7 ans d'expérience à l'époque, qui était là pour m'aider, etc. Mais en fait, très vite, je gère de A à Z, que ce soit bon, la facturation, c'est lui qui établit les honoraires, mais je m'occupe de tout, quoi, de la facturation, de rentrer les dossiers, de tout faire, il y a personne pour me relire, je gère déjà 3 ou 4 stagiaires qui travaillent avec moi, alors que je suis toute jeune avocate. Et comme on a cette liberté, je me dis c'est impossible que je reparte en collab dans un truc où il y a un patron qui va relire ce que je fais, etc., qui va m'imposer le truc. Et puis finalement, c'est vrai que quand on est collaborateur, on se rend aussi compte que financièrement, ce qu'on est payé en collab, a priori, on peut quand même assez vite rentrer les mêmes sommes en étant à notre compte, en ayant 3-4 dossiers par mois, quoi. Donc je me dis, bon, voilà, je verrai, j'essaye de me mettre à mon compte, j'ai 6 mois de l'assurance perte de collab, si ça marche tant mieux, et ben, si ça marche pas, je partirai rechercher une collab, ou je ferai complètement autre chose si vraiment ça marche pas, etc. Mais j'avais pas envie de repartir dans un système de collab, et pourtant j'avais très peu de dossiers perso en fait, donc c'était pas évident non plus.
Et le fait que dès le début vous étiez très autonome dans ce cabinet, est-ce que ça vous a fait peur? Est-ce que ça vous a posé problème? Ou est-ce que vous vous êtes dit, ah tant mieux
Alors au début ça a fait très peur. C'est-à-dire que concrètement, quand moi j'arrive au cabinet, il y a des stagiaires qui sont là déjà depuis plusieurs mois, qui connaissent mieux les matières que moi. En plus, le pénal routier, si vous n'en avez pas fait avant, vous ne pouvez pas l'inventer, quoi. Et donc je suis extrêmement stressée parce que la première semaine je reçois des clients pour des trucs d'annulation de permis en sachant que je n'ai pas le permis, que je déteste la conduite, que j'y connais rien. Et c'est vrai que les premières semaines c'est toujours compliqué, quoi. Après c'est l'avantage de cette autonomie et notamment d'avoir beaucoup d'audience, bah, c'est que très vite en fait on est dans un tel flow qu'on n'a pas le temps de se poser de questions, qu'il faut y aller. Et c'est vrai que c'est une expérience qui est hyper importante. Je pense qu'il y a des collaborateurs dans des plus grosses structures du coup qui vont être longtemps un peu en statut de stagiaire en fait, où vous rédigez des trucs mais qui sont relus, où vous n'êtes pas forcément d'indépendance. Là, c'est vrai que très vite, au bout de 2 mois, je dois avoir fait 20 audiences, quoi. Donc voilà, ça vous met dans le bain immédiatement. Et il y avait cette autonomie à la fois par rapport au patron et en même temps le soutien des collabs et des autres qui bossaient là. Donc j'étais pas. Enfin, je pense que si j'avais été toute seule avec un patron, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et je pense qu'en fait, ce qui rassure, c'est de travailler en groupe et d'avoir d'autres gens qui vont pouvoir vous relire, vous aider, à qui vous posez des questions. Je trouve que du coup, le stress a été relatif.
Ouais. Et donc, vous vous installez.
Et donc,
vous vous installez.
Ouais. Ouais, je m'installe en me disant, bon, c'est vrai qu'à ce moment, j'ai pas d'enfants à charge, etc. Donc, je veux dire, les risques, au pire, j'ai des parents qui habitent en région parisienne, si vraiment je pouvais pas payer mon loyer. Enfin, je veux dire, les conséquences aussi, je mesure quand même le risque. Hein. Je me dis pas, j'ai des crédits immobiliers sur le dos, 4 enfants à nourrir, etc. Donc, ça aurait peut-être été différent à une autre période de ma vie. Mais à ce moment-là, je me dis, bon, bah, je tente le coup. Donc c'est vrai que les 6 premiers mois, heureusement qu'il y a cette assurance perte de collab, parce que c'est extrêmement compliqué, hein, qu'on se retrouve du jour au lendemain sans rien, sans rémunération aucune. Donc là, ça me permet de voir venir. Bon, clairement, la première année, hein, c'est un peu la cata financièrement. J'avais pu mettre de l'argent de côté, j'avais un peu fait de réserve quand même avant de quitter le cabinet. Donc voilà, première année, je m'y attendais. Et du coup, au départ, j'avais pris une domiciliation, parce que c'est quand même le meilleur moyen quand vous mettez à votre compte, quoi. Donc, il y a 300 euros seulement, ça me coûtait 300-350 euros la domiciliation. J'ai dû faire ça pendant à peu près 1 an. Et ensuite, j'ai eu la possibilité de sous-louer des locaux, partagés avec mon ami qui m'avait fait rentrer dans sa première collab, Paul Sinchem, qui est un confrère que j'adore, et qui du coup me propose de partager un bureau avec lui chez un confrère où il sous-loue des locaux. On fait ça pendant 1 an. Et après, du coup, eux devaient partir, en fait, tout le cabinet devait déménager, avenue de la Grande Armée, avec d'autres confrères, etc. Et là, je me dis que non, j'ai pas envie de ça, c'est pas... Et je décide, du coup, de prendre les locaux où je suis aujourd'hui, avec 2 autres amies qui sont avocates à l'endroit des étrangers. Et donc, on a pris les locaux à notre compte. Donc, ça y est, je veux dire que j'ai posé ma fac et que j'ai mon propre bureau, là, depuis août cette année.
Félicitations.
Merci.
Et pour revenir sur votre installation, la première année, du coup, les clients, vous êtes allés les chercher où? Ça a été quoi votre démarche?
En fait, c'est aussi le problème, c'est que quand on devient... Enfin, moi, je suis devenue avocate en me disant, je vais défendre des gens. Je ne suis pas devenue avocate en me disant, je vais avoir mon business, il va falloir que je fasse ma com, que j'aille démarcher des clients, que je m'occupe de ma compta, enfin, d'être chef d'entreprise, en fait. C'est vrai que cette partie-là de la profession, on n'y est pas préparé. On ne sait pas comment faire. Heureusement, au départ, il y a les permes. Alors, c'est difficile d'en vivre, hein, mais je veux dire, les permanences, garde à vue, comparution immédiate, etc., ça vous permet au moins d'avoir un minimum qui paye les charges, grosso modo. Je pense que si vous faites toutes les permes garde à vue que vous pouvez faire, ça doit vous faire 1500 euros TTC. Mais bon, déjà, ça paye l'URSSAF, le loyer, etc. Et les clients, bah, j'avais quand même quelques clients... J'avais quand même passé 3-4 ans en collab, donc j'avais quand même quelques clients perso, mais j'avais jamais vraiment développé la clientèle, parce que c'est vrai que quand on est en collab, qu'on a notre rémunération et qu'on a déjà plein de boulot par cabinet, moi j'avais pas spécialement d'ambition, de volonté de développer, etc. J'étais contente de pouvoir partir en vacances, profiter de mes week-ends, donc j'avais pas développé tant que ça en fait, mais j'avais quelques clients. Et en fait, ce qui m'a permis de m'installer et de pérenniser un peu l'installation, c'est une clientèle effectivement un peu spécifique d'un contentieux particulier qui sont les organisateurs de rêve party.
Ben oui, et alors, vous les avez trouvés où, comment? Enfin, comment ça s'est fait cette histoire?
Alors, en fait, moi je viens de banlieue du 95, et je rencontre des copains quand moi je suis au lycée qui sont un peu plus vieux que moi, etc., et qui traînent dans ces milieux, qui organisent des soirées festives, type rêve party, musique techno, qui se font DJ, etc. Et donc, avant même de devenir avocate, j'avais déjà eu à intervenir, si on peut le dire comme ça, ou en tout cas essayer d'aider un peu d'un point de vue juridique, notamment par exemple je me rends à des réunions avec ces organisateurs de rêve party, des réunions qui sont organisées au ministère de l'Intérieur pour l'organisation de certains événements au point de vue national, c'est-à-dire qu'eux n'ont aucune connaissance juridique, n'ont pas forcément le discours adapté. Quand vous êtes reçu par un chef de cabinet au ministère de l'Intérieur, il faut avoir un certain langage, etc. Et donc comme je suis étudiante en droit, on me demande assez rapidement en fait de venir un peu faire la caution juridique.
La caution sérieuse,
c'est ça, de ces organisateurs de fêtes. Donc je les connaissais comme ça. Mes premières années, j'avais pas vraiment bossé avec eux. Ils travaillaient avec un avocat qui était dans le sud de la France. Et en fait, du coup, quand je me mets à mon compte, je renvoie un mail à ces personnes que je connaissais déjà en leur disant, bon bah voilà, je suis avocate, je me mets à mon compte, donc j'ai du temps, etc. Si ça vous intéresse. Et donc là, ils commencent à me confier les premiers dossiers. Et bah très vite ça marche bien, ils sont satisfaits de mon travail, moi je suis aussi satisfaite de faire ça, et puis de toute façon j'en ai besoin, c'est-à-dire qu'au départ c'est vrai que ça me fait en fait l'avantage de ces organisateurs de rêve party, c'est qu'ils ont monté une association et qu'ils participent tous, en fait ils versent des fonds en permanence dans toute la France en fait pour mutualiser les frais d'avocat. Donc en fait quand il y en a qui se font attraper à la fin d'une fête, saisir leur matériel, etc., ils n'ont pas à débourser directement l'argent pour payer l'avocat, c'est l'association qui prend en charge les frais. Ça permet de mutualiser la défense, ça permet d'avoir une défense avec un avocat qui soit entre guillemets spécialisé, même si le terme n'est pas vraiment adapté.
Et... Mais on peut tout à fait spécialiser en rêve party, hein. Moi, je vois pas du tout où est le problème.
Exactement. Donc, donc voilà, du coup, je commence à travailler avec eux, et c'est vrai que très rapidement, en fait, ça me fait une base fixe, quoi. C'est-à-dire que tous les mois, j'ai au moins deux, trois dossiers avec eux, donc même si c'est pas extrêmement bien payé, parce que c'est le principe de ces organisateurs de rêve party, c'est qu'ils font des soirées gratuites, donc c'est pas des soirées où ils récoltent de l'argent, donc ils n'ont pas, pas moyen de payer des honoraires extrêmement importants, mais ça me fait quand même une base assez régulière, et puis c'est aussi, ça me permet de me faire connaître, ça me permet aussi d'avoir après des gens qui m'appellent du coup pour des dossiers annexes ou pour des histoires de permis de conduire dans ces fêtes, etc. Et c'est ça, en tout cas au départ, qui m'a vraiment permis de me faire une clientèle et d'avoir un fond de roulement, en tout cas, on va dire.
C'est quoi les problématiques d'une rêve party?
Les problématiques d'un rêve party, c'est que ce qu'on leur reproche en général, c'est de ne pas avoir déclaré leurs événements, parce qu'ils ont une obligation de déclaration, et qu'en fait, si vous ne déclarez pas l'événement, là, en soi, c'est une contravention, donc 1500 euros d'amende, je veux dire, ils pourraient ne pas prendre d'avocat, sauf que dans 90% du temps, on saisit leur matériel, les sonorisations, les véhicules, etc. Donc il y a des dossiers avec des enjeux de 100 000 euros, donc les enjeux sont très importants. Et c'est vrai que, alors je vais pas dire que c'est parce que je suis bonne avocate, hein, mais c'est parce
mais
que souvent les dossiers...
Mais vous pouvez même dire que c'est parce que vous êtes bonne avocate.
Non, mais c'est... Enfin, je veux dire, j'ai quand même plein de dossiers en pénal général, etc. J'ai jamais autant de relax ou de nullité de procédure que dans ces dossiers de rêve party. Parce que je pense qu'il y a aussi un côté force de l'ordre, un côté de se dire, hein, c'est des toughers dans les bois, ils y connaissent rien à rien. Donc souvent les procédures sont faites n'importe comment, des saisies, etc. Et donc c'est aussi gratifiant quand vous êtes avocat pénaliste et que vous arrivez à obtenir des nullités et des relax. Parce que c'est quand même pas, c'est pas souvent le cas, c'est pas majoritairement le cas. Et donc sur ces dossiers, c'est vrai qu'il y a de très bons résultats, et ce qui est quand même satisfaisant quand vous êtes avocat.
Et en plus, ça aide après pour faire passer le mot chez les autres clients.
Bien sûr. Et
puis, non, parce que du coup, ils trouvent ça exceptionnel. Donc,
Non mais bien sûr, et puis c'est vrai que moi c'est quand même un contentieux qui me plaît, c'est vrai que ça change en fait, c'est ça le truc quoi, c'est qu'à côté des dossiers que vous pouvez avoir de violence, de viol, de trucs qui sont quand même parfois un peu glauques et un peu durs à gérer Là, c'est des gens qui organisent des fêtes, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même assez léger. Il y a une notion aussi un peu politique, en fait, dans ces infractions, parce qu'eux revendiquent le droit de faire des fêtes, ça pose des questions de liberté publique, etc. Donc c'est vrai que c'est un contentieux qui, moi, me plaît vraiment, et je trouve ça assez cool de défendre les toughers, comme on les appelle en général.
Et donc ça a ouvert... ça, c'est une base fixe.
Ouais.
Et après, pour le reste du développement ?
Pour le reste du développement, bah, c'est pareil, c'est des... Par les fêtards ou par des copains, etc., à droite à gauche. C'est vrai que l'avantage que j'ai eu d'être dans ce cabinet en permis de conduire, c'est que finalement, l'expérience en permis de conduire, elle est quand même hyper importante. C'est-à-dire que du pénal général, c'est quand même compliqué, je pense, quand vous êtes très jeune avocat, de choper des gros dossiers, etc., de trouver la clientèle. C'est vrai que le permis de conduire, c'est quand même un contentieux hyper important, et où les coordonnées circulent facilement. Donc c'est vrai que j'ai pas mal, par le bouche à oreille, de clients que j'accompagne en permis de conduire, en ayant cette expérience, avec des bons résultats aussi, et du coup, bah, c'est toujours comme ça que ça marche. De toute façon, c'est le bouche à oreille. Donc il y a d'un côté le bouche à oreille qui marche par rapport aux organisateurs de rave party, et les autres clients que j'avais à droite à gauche, ou de permanence, ou emmenés par des copains, etc., qui eux aussi font un bouche à oreille, qui fait que j'ai pu prendre des locaux, même si financièrement je dis pas que tout est simple, hein. C'est sûr que c'est toujours compliqué d'être surtout de tous les mois, de pas savoir de quoi demain sera fait, etc. C'est sûr que c'est assez stressant, mais on arrive à s'en sortir.
Ouais, et vous commencez à avoir de la visibilité quand même, du coup,
sur, bien sûr, et puis c'est vrai que
lycée sur 2 ans d'installation.
Ouais, bien sûr, en fait je me rends compte quand même que bon, alors après là j'ai un problème des locaux, il a fallu faire des travaux, donc les
oui, il y a de la croissance.
Mais je me rends compte que chaque année, bah, le chiffre d'affaires augmente d'année en année, donc déjà ça c'est rassurant de se dire que ça ne diminue pas, qu'il y a l'effet boule de neige qui fonctionne un petit peu. Ouais. Très grosse ma boule, mais ça grossit, ça continue à grossir en tout cas. Donc c'est assez gratifiant, surtout d'avoir des bons retours, des bons résultats, de voir que les clients vous recommandent, etc. Et en fait, moi je connais personne qui sont installés qui le regrette. C'est-à-dire que c'est toujours une décision difficile à prendre. Je comprends que ouais, en plus c'est forcément différent suivant les conditions des uns et des autres, et de vos charges familiales, etc. Mais de tous ceux que je connais, personne ne regrette l'installation, même si c'est pas évident tous les jours.
Et donc rave party,
ouais.
L'activité fête, l'activité droit pénal routier. Et vous avez un autre pôle, ou après c'est plus ce qui se présente éventuellement
Alors je fais du pénal général, je fais quand même quelques dossiers en droit de la famille, etc., parce que j'en faisais dans mon ancien cabinet aussi. Droit du travail assez peu finalement, parce que je suis quand même partisane de l'idée qu'il faut faire ce qu'on connaît, quoi. Donc c'est bien, on peut tout à fait se former en tant que plan de recherche pour un client, etc. Mais moi je suis jamais trop à l'aise avec l'idée de prendre des dossiers dans des matières que je connais pas du tout. Donc même si je suis jeune et que je pourrais me dire je viens de m'installer, je chope tous les dossiers qui passent et je garde tout, là, je préfère 100 fois renvoyer un confrère qui est vraiment spécialisé, qui va pouvoir gérer le dossier au mieux pour le client, etc., en me disant qu'un jour il me renverra peut-être la balle et que c'est un dossier en pénal, il me renverra ou pas. Peu importe, mais voilà, moi je suis plutôt dans l'idée, je vais pas prendre un dossier en droit fiscal en me disant tant pis, je vais me mettre à faire des recherches et je vais me former sur le dos du client. C'est pas du tout ma position. Je pense qu'en général c'est pas du tout rentable en plus, parce que finalement vous facturez pas grand chose parce que vous y connaissez pas, alors que vous passez des heures et des heures à faire des recherches, ça vous cause un stress pas possible. Enfin vraiment, moi je suis partisane de l'idée de faire ce qu'on maîtrise principalement.
Et du coup, vous vous êtes composé une dream team?
Alors j'ai des confrères effectivement avec lesquels j'ai travaillé dans mon ancien cabinet. Là je partage les locaux avec des consoeurs qui font du droit des étrangers. Après, là où on se fait un peu avoir finalement, c'est que j'envoie souvent des dossiers aux confrères, et c'est vrai qu'en général les confrères gardent les dossiers en droit pénal, parce que le droit pénal, tout le monde a l'impression qu'on peut le faire. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être spécialement formé pour garder les dossiers en droit pénal. Donc voilà, c'est vrai que j'ai quand même pas mal de confrères moi qui se sont installés parce qu'ils ont récupéré des clientèles d'anciens boss, etc., qui décidaient d'arrêter d'exercer ou qui arrêtaient une partie de leur activité. Moi, pas du tout. Vraiment, j'avais pas de dossier qui me soit amené. Mais il n'empêche qu'on arrive quand même à s'en sortir, quoi.
Et niveau com, gestion, enfin, tous ces trucs...
Alors, c'est vrai que ça, c'est un peu compliqué. Moi, je trouve que c'est hyper difficile, en fait, de se vendre. C'est-à-dire que autant prendre la parole pour défendre quelqu'un, etc., pour mettre en avant un client et tout, j'ai aucun mal à faire, mais se vendre soi-même, parler de soi, etc., faire un site internet où on parle de soi à la troisième personne, ou le cabinet, etc., enfin, je trouve ça toujours très bizarre comme démarche. Donc c'est vrai que j'ai rien fait pendant très longtemps. J'ai fait une page Facebook, parce que mes clients, notamment les organisateurs, etc., sont quand même pas mal sur Facebook, et puis c'est plus simple au départ que de faire un site internet et tout. Et là, mon frère est en train de faire un site internet. Du coup, voilà. Mais c'est vrai que je communique pas beaucoup parce que je trouve ça compliqué de se vendre soi-même et de se mettre en avant. Enfin, je suis vraiment pas à l'aise avec ça. J'ai l'impression d'être un peu Jean-Claude Van Damme à parler de moi-même et à vouloir me vendre. Non, mais c'est vrai que c'est pas évident. Il y a des confrères qui font ça très bien. Hein. Mais moi, je suis pas trop à l'aise avec ça. Donc, un petit peu. L'avantage aussi avec ces dossiers de rêve party, c'est que j'ai eu un dossier un peu médiatisé cet été, ce qui m'a permis aussi, voilà, de passer à la télé, sur BFM, etc. Donc, ça, c'est vrai que ça amène aussi des clients. Donc,
finalement, vous avez vu une retombée après direct.
Bon, alors c'est compliqué parce que quand les gens m'appellent, je leur demande pas si vous m'appelez parce que vous m'appelez parce que vous m'avez vu à la télé ou parce que c'est recommandé par un client, mais c'est sûr qu'en termes de visibilité, enfin bah voilà, s'il n'y avait pas eu ce dossier, je pense que je serais pas en train d'enregistrer ce podcast avec vous. J'avais fait une interview pour un magazine.
Mais qui m'a... Moi, c'est un étudiant qui m'a parlé de vous.
Ah bon? Je pensais que c'est une journaliste.
Non, c'est un étudiant parce que. Ouais, je sais plus. Je dirais en introduction du podcast, mais c'est un étudiant de Paris 1. Qui m'a dit oui, c'est elle qui s'occupe des dossiers quand il y a des fêtes, enfin, ouais. Et notamment les fêtes liées par les organisées par les associations étudiantes et tout. Donc, je sais pas s'il est dans une association étudiante qui organise des teufs et qu'ils ont eu recours à vos services et tout. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, c'est passé par, je pense que c'est un de vos clients ou un client indirect. Donc non, c'est pas par le truc journalistique, ouais.
Ouais, mais ça c'est vrai que bah voilà, parfois il suffit d'un dossier pour avoir un peu plus de visibilité. Et c'est sûr que par exemple là, moi je communique pas du tout, mais maintenant si on tape mon nom sur internet, on va tomber sur des trucs de BFM, etc. Donc voilà, c'est sûr que pour les clients, j'en ai pas mal qui m'ont dit ah ben on vous a vu à la télé, c'était bien. Ça leur donne l'impression que vous êtes un avocat un peu sérieux, un peu coté sur la place, etc. Donc, ça veut pas dire grand chose finalement, mais c'est sûr que c'est toujours rassurant pour les clients. Et que voilà, je pense que ça aussi effectivement était un peu utile cet été d'avoir ça qui me soit tombé dessus de manière assez impromptue.
Ouais. Donc épanouie,
ouais. Bah, besoin de vacances parce que c'est aussi ça quand on a son compte, quoi. C'est que c'est compliqué de partir en congé. Alors autant quand j'étais collab, je me disais bon, j'avais de l'argent, mais pas trop de temps pour partir en vacances, etc. Quand j'ai commencé à m'installer, j'avais potentiellement du temps parce que j'avais pas beaucoup de dossiers, mais j'avais pas une thune pour partir en vacances. Et là, c'est pareil, quoi. C'est-à-dire que là, en un an et demi, j'ai pris 2 semaines de congé. Parce qu'il y a toujours des audiences, quoi. Donc quand vous êtes seul, moi j'ai pas de collab, j'ai pas de stagiaire, j'ai rien. Donc ça veut dire refiler des dossiers à des confrères, perdre des dossiers ou payer des postulants, etc. Et c'est vrai que financièrement, c'est toujours un peu compliqué. Donc voilà. Et puis c'est pareil pour les clients, quoi. Quand vous êtes seul, vous pouvez pas dire je vais refiler votre dossier à un confrère, etc. Vous êtes quand même investi dans votre cabinet, etc. Donc là, j'espère pouvoir prendre des vacances fin janvier. Je vais réussir normalement à bloquer des jours pour pouvoir partir.
Ouais.
Parce que c'est quand même amusant comme boulot, même si c'est passionnant et que c'est
N'importe quel boulot est utilisant. Enfin, je veux dire, toute façon, le cerveau a besoin de vacances, quoi.
Oui, et puis c'est vrai que quand on a son compte, enfin, ça s'arrête jamais, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire que les clients, ils ont toujours pas compris, ça servait à rien d'appeler le dimanche pour des dossiers qui n'étaient pas urgents ou de vous appeler à 23h. Et
alors, comment vous les gérez, ces clients qui appellent le dimanche pour des dossiers qui sont pas urgents?
Alors, moi, si c'est pas urgent, je leur réponds pas. J'attends lundi pour les rappeler, quoi, histoire qu'ils comprennent qu'en fait on est dimanche et que je vais pas leur répondre dimanche. Bien sûr que si c'est urgent pour des trucs de garde à vue, etc., je vais répondre, mais j'essaye quand même de leur expliquer. Par exemple, voilà, moi j'ai plein de clients qui m'appellent et qui me tutoient en m'appelant Marianne à n'importe quelle heure du jour et de la nuit comme si j'étais un pote, quoi. Donc j'essaie de leur expliquer que je suis avocat, que c'est
que je suis maître Rostan.
Voilà, et pas non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Enfin, il y a des gens qui savent pas comment ça marche, mais il y a des gens aussi qui s'en fichent et qu'on refile le numéro comme ça, etc. Donc on a l'impression qu'ils peuvent vous appeler à n'importe quel moment, comme si c'était juste un copain à qui on va demander un conseil, quoi. Donc j'essaie quand même de recadrer un peu les choses, qu'ils comprennent que non, c'est un boulot, que ça sert à rien de m'appeler le dimanche matin, ou que ça sert à rien de m'appeler 6 fois d'affilée en l'espace de 2 minutes 50 et que je rappellerai comme je peux. Donc j'essaie, mais c'est sûr que c'est pas évident de gérer les clients. Mais comme c'est pas évident de gérer les relations avec les confrères, avec les magistrats, etc., c'est sûr que c'est un boulot où on est un peu en confrontation permanente avec tout le monde. Moi qui suis une nature stressée, c'est sûr que c'est pas vraiment évident à gérer. Là, ça va mieux, mais je pense que les débuts de l'installation, etc., je dormais peu, quoi. Mmh. J'avais quand même beaucoup d'insomnie. Vous avez ce truc de vous réveiller en pleine nuit en vous disant « Mon Dieu, j'ai pas noté telle date » ou « J'ai pas fait tel truc », etc. Donc voilà, c'est assez fatigant et il faut réussir à se préserver quand même un peu de tout ça et à pas se laisser. C'est un boulot qui peut vite vous happer. En fait, c'est ce que je m'étais dit avant le début d'été. Je me disais que j'ai l'impression que ma vie entière est happée par le boulot, quoi. C'est-à-dire que même quand je rentre, j'y pense le week-end, etc. Enfin, c'est dur de lâcher complètement prise, quoi. Autant quand vous êtes salarié, je pense que voilà, vous rentrez le soir, vous faites votre vie, etc., vous posez pas beaucoup plus de questions. quand vous êtes avocat, c'est différent. Mais en fait, c'était aussi ça quand j'étais, même quand je travaillais pour un patron, quoi. Parce que même si c'était pas mes clients à moi, je les gérais quand même complètement et que ce stress, vous le travaillez tout le temps.
Quoi. Et du coup, je sais pas, est-ce que vous avez mis en place des sortes de garde-à-fous pour vous aider sur votre stress, sur vos angoisses ? Je
non.
sais pas, une organisation particulière
Non.
Non.
Non. Alors pour l'instant, le seul truc, c'est que. Je me fais plaisir sur la bouffe, je mange plein de trucs, je suis hyper gourmande, donc voilà, ça compense mon stress. Non mais c'est vrai.
Non mais oui, c'est tout à fait vrai.
Voilà, donc je mange n'importe quoi. Je me fixe pas trop de limites en termes de bouffe, ça me fait du bien, ça me détend. Non mais c'est vrai, c'est un de mes plaisirs, donc voilà. Et non, alors pour le coup, je pars pas beaucoup en vacances, mais quand je pars, j'essaie de me faire vraiment plaisir. C'est-à-dire que moi j'adore la plongée par exemple, donc voilà, cette année j'ai quasiment pas pris de vacances, mais je me fais 6 jours de vacances dans les Caraïbes pour aller faire de la plongée, et là j'espère partir en janvier, Sultana d'Oman pour aussi aller faire de la plongée et dans le désert. Donc je prends pas beaucoup de vacances. Mais quand j'en prends, je les prends vraiment. Et puis, comme je passe 6 semaines à regarder où je vais aller et ce que je vais faire, ça prolonge un peu l'impression d'être en vacances, en fait. C'est ça.
Et d'accord, donc pas de garde-fou. Enfin, je veux dire, il y a des endroits de décompensation du stress, mais pas encore trop de...
Non, parce que en fait, c'est ça. Et quand je dis que j'aime bien la plongée et tout, parce qu'en fait, j'ai quand même l'impression que c'est quasiment des seuls moments où j'ai la tête vide. C'est-à-dire qu'en dehors de ça, quasiment tout le temps, quoi. C'est-à-dire que je vais pas dire que je pense en permanence et quand je suis en soirée avec mes amis, je pense au travail. Mais il y a toujours dans un coin de votre tête ou le soir quand vous allez vous coucher, etc., l'idée de j'ai ça à faire, il y a tel dossier, il y a tel truc, etc. Et donc moi, j'ai besoin, je pense, d'être très loin à un endroit où il y a 15 heures de décalage horaire, où ils peuvent pas m'appeler, où je laisse un message sur mon répondeur en disant je suis pas là, je suis à l'étranger, envoyez-moi des mails, où je sais que je suis pas joignable et où vraiment je suis loin de tout pour pouvoir décompresser. Je peux pas, aller faire du golf le week-end, ce serait pas suffisant pour moi pour réussir à me détacher du stress du travail et de l'implication des dossiers, parce que c'est aussi ça le truc, quoi. C'est que il y a peut-être des avocats qui arrivent à prendre plus de distance. Moi, je trouve que peut-être parce que c'est les premières années, ça dépend aussi des contentieux. C'est dur de mettre de la distance entre soi-même et les clients. Moi, parfois, j'ai l'impression que je suis plus stressée que le client, et à l'inverse, parfois, j'ai l'impression que je suis plus contente que lui quand j'ai une bonne décision, quoi.
Ouais.
Donc, c'est vrai qu'on vit les choses de manière très intense aussi. Ce qui est fatigant et ce qui est usant au fur et à mesure, quoi.
Non, mais après, je sais pas si vous. Moi, je suis pas une experte en outils et tout, mais je pense que maintenant, il existe quand même un certain nombre d'outils qui aident à se décharger du mental toute une quantité d'informations sur justement les délais, les trucs, les machins, enfin, mais ça peut peut-être aider, mais je...
Ouais, alors, bon, là-dessus, c'est aussi l'avantage du pénal, quoi, de faire principalement du pénal, c'est que c'est de la procédure orale, vraiment les RPV et compagnie, c'est une angoisse monumentale. donc voilà, je sais pas. Après, je pense que c'est aussi là pour l'instant, voilà, c'est le tout début de l'installation, je viens de prendre les nouveaux locaux,
ça
etc. Donc je pense que voilà, peut-être que d'ici 2-3 ans, je me dirais, bon, il est temps de trouver des solutions pour être moins stressée, pour faire plus la part des choses, pour réussir à me détendre, être moins impliquée, parce que je pense que c'est bien d'être impliquée, c'est pas quelque chose de négatif. Mais oui, mettre un peu plus de distance et prendre moins les choses à cœur. Quoi.
Ouais.
C'est-à-dire que vraiment. C'est difficile à vivre, même par exemple des mauvaises décisions, quoi. Alors qu'on sait que c'est pas nous qui prenons la décision, mais moi j'ai l'impression de porter le poids et la culpabilité d'une décision qui est pas bonne pour le client, quoi. Et je pense que c'est aussi une remise en question permanente, c'est à dire que moi ça va m'arriver très souvent de me dire est-ce que s'il avait pris un autre avocat ça serait passé différemment, ou à l'inverse est-ce que finalement j'ai vraiment été utile, peut-être que s'il m'avait pas payé d'honoraires et qu'il y avait été tout seul ça aurait été la même décision. Donc je pense que c'est aussi un peu difficile dans ce métier, cette remise en cause pas permanente, mais quand même fréquente, en tout cas, de ses compétences, de ses capacités, parce que l'enjeu est hyper important, quoi. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est quand même potentiellement la liberté de quelqu'un. Mmh. Ça, c'est assez difficile. Enfin, c'est difficile à vivre. Ça, je le vis mieux maintenant qu'il y a quelques années. C'est vrai qu'au tout début, d'ailleurs, l'entrée à l'école d'avocat, je l'avais décalée d'une année. Parce que j'avais 22 ans, je crois, quand j'ai eu le...
Vous avez tout fait hyper rapidement.
Ouais, j'ai tout fait hyper rapidement. En fait, j'ai enchaîné, j'ai eu le bac à 17, j'ai fait les premières années de droit, passé le barreau à la fin du master, etc. Heureusement non, mais je m'étais fait larguer au plein milieu des oraux du barreau. Et du coup, j'ai dit, j'arrête le master 1, je rentrais à l'école, et j'avais pris 6 mois ou une année, en gros, de chill et de...
Et vous étiez partie où ?
Pas de truc très exotique, c'était vraiment la dépression quand même, hein. Ça allait pas du tout, j'ai quand même eu le barreau, mais quitte au milieu des euros du barreau.
Mais comme quoi ?
malgré lui. Et du coup, j'ai repoussé l'entrée à l'école et je suis allée faire un tour en Espagne chez une copine en Angleterre, etc. Je n'étais pas allée très loin, mais voilà, j'avais complètement arrêté. J'ai recommencé un master 2. Mais parce
du
que...
coup, vous étiez lâchée sur les croquettas et sur le fish and chips.
Exactement. Exactement. Mais, non, mais c'est vrai que je m'étais dit, au-delà du fait que bon, ça allait pas et que j'étais pas en mesure à ce moment-là, psychologiquement, d'attaquer l'école, de continuer le master et tout, il y a aussi un truc où je me disais, mais en fait, j'ai 22 ans, je me vois pas assumer la responsabilité que c'est à cet âge-là, quoi. Clairement, c'est pas possible. Je pouvais pas l'envisager, je me suis trouvée beaucoup trop jeune pour ça. Bah, en même temps, ça change pas grand-chose d'être avocat finalement à 24 ans, quoi. Mais c'est vrai qu'on est quand même très jeune par rapport aux responsabilités qui vont nous incomber.
Et du coup, là, vous avez 30 ans.
J'ai 32 ans.
Ok. Et est-ce que vous avez une source d'inspiration?
Source d'inspiration chez les avocats, vous voulez
dire? Bah, une source d'inspiration.
Ma mère.
Ok. Pourquoi votre mère?
Ma mère, parce que je peux pas dire qu'elle est parfaite, c'est un peu cliché, mais déjà parce qu'elle est vachement détente, elle est pas du tout stressée, elle a toujours tendance à voir le truc positif.
Mais alors, ça vient d'où ce stress?
De mon père. Il y a le côté, effectivement, je pense que je suis le mélange parfait entre mes deux parents. Et c'est vrai que ma mère a toujours beaucoup travaillé. Elle a eu 6 enfants, elle a mené sa carrière, elle reste de front, etc., en s'occupant de tout. Et c'est surtout, en fait, dans son appréhension de la vie, en fait, que j'admire, parce qu'elle a toujours l'impression, alors qu'elle a 1000 trucs à gérer, 1000 trucs à faire, que tout va bien se passer, et voir le verre toujours plutôt vide qu'à moitié plein, enfin, à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, on va dire ça comme ça. Donc voilà, après, il y a plein de choses qui m'inspirent, il y a plein de choses qui me passionnent, en fait, à côté du métier d'avocat. Alors, c'est vrai que je suis pas du tout l'avocate qui va passer mes week-ends dans les soirées du bâtonnier, ou à lire les dernières actus de trucs du barreau, etc. Il y a plein d'autres trucs
qui alors, me passionnent. Alors, vous faites quoi week-end justement?
Je sors un peu, mais pas trop. Je vois pas mal de copains. Je suis assez famille parce que je viens d'une famille nombreuse. Et puis il y a plein de trucs qui me passionnent. J'adore l'astrophysique, j'adore les plantes. Je m'occupe de mes petits trucs, etc. Et il y a effectivement.
Bon, alors moi je cherche la plante et la non, photo de poisson dans ce bureau. Je suis désolée, non, mais je.
J'emménage. C'est en cours. Il y a un tableau d'accroché déjà. Il y en a 3 qui sont en attente. Là, oui. Mais c'est mes photos de voyage.
Bah oui, non, mais du coup, je cherche la photo de plongée.
Ouais.
Bon, mais ça viendra.
Mais ça viendra. Donc.
Si j'avais su, je vous aurais emmené. Parce que j'ai des petites boutures de plantes vertes chez moi. Et
ah, bah ouais. Donc voilà, non, mais il y a plein de choses que j'adore et plein de choses qui me passionnent. J'admire Albert Einstein, Benoît Mandelbrot, Alan Turing. Mais c'est des trucs plutôt scientifiques.
Uh-huh.
Et j'adore je suis une grande amatrice de sport à la télé. Je pratique pas du tout.
De sport à la télé?
Ouais, je regarde, je suis une grande spectatrice. Je suis le biathlon, j'ai une passion pour les Jeux Olympiques, je suis le foot. Alors moi, je pratique pas du tout de sport, mais j'adore ça. Ouais, mais parce que j'ai l'impression d'être un peu avec eux aussi.
Mmh.
Mais c'est comme en fait quand j'allais passer des examens où j'avais l'impression d'avoir un stress énorme quand je regarde le sport à la télé, c'est aussi ça. J'ai l'impression de vivre le truc avec eux.
D'accord. Toi. Vous avez besoin de cette adrénaline, de vivre cette adrénaline. Si vous n'êtes pas en train de la vivre, il faut que vous la viviez à travers.
Exactement. Ouais. Et je pense, mais ça fait. Je pense que c'est assez constitutif de ce que je suis, quoi. C'est-à-dire
donc vous êtes du genre crispé devant le match, si.
Oui, j'ai l'impression d'être le 13e homme sur terre, hein, quand j'ai l'impression que ma vie en dépend, ou j'ai l'impression que je vais passer le bac. Mais j'ai toujours été comme ça. Je me rappelle que quand j'étais toute petite, je faisais de la gym, mais c'était un loisir, quoi. Quand on avait des compétitions, ça m'angoissait tellement la veille. Des fois, je me disais, mais je vais aller me péter un bras pour pas la faire, la compétition, tellement j'avais ce stress qui est monumental, mais qui dirige aussi un peu ma vie, quoi. C'est-à-dire que ça fait aussi partie de ce que je suis. Je pense que je suis très speed, je parle très vite, je suis assez énergique, etc. Et ça vient de, je pense que ça vient de ce stress un peu permanent qui est en moi.
Et la science?
La science, je ne sais même franchement, parce que j'ai quand même fait. J'avais décidé de faire un bac ES parce que c'était le seul truc qu'on arrêtait, physique, que je trouvais inintéressant. Je ne supportais pas ça à l'école, c'était vraiment pour moi l'horreur, le pire truc qu'on puisse me faire faire, la physique. Alors après, je ne suis pas du tout matheuse, etc. C'est pour ça que j'adore les sciences, mais je voilà, comme un néophyte, quoi, comme quelqu'un qui. Je suis incapable de lire et de comprendre les équations. Mais en fait, je trouve ça très intéressant. J'ai mis beaucoup de temps à m'intéresser, mais en fait, le jour où on m'expliquait que le fer qu'on a dans le sang, il a été créé au centre d'une étoile, Juste cette phrase, en fait, ça m'a ouvert complètement sur les sciences, sur la création de l'univers, sur l'astrophysique, sur le tableau périodique des éléments, enfin sur des trucs auxquels je ne m'étais absolument jamais intéressée. Et en fait, mais c'est comme dans beaucoup de choses, j'ai l'impression que chaque sujet m'amène vers un autre. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai adoré les plantes, et du coup, je me suis un peu intéressée, je sais pas, à l'azote, au potassium, aux trucs qui constituaient les plantes, donc au tableau périodique des éléments. Du tableau périodique des éléments, je me suis intéressée à la création de ces éléments, et du coup, à l'astrophysique. Et en fait, à chaque fois, du coup, ça m'emmène toujours vers de nouveaux sujets qui m'intéressent et qui me passionnent. Je suis assez monomaniaque, donc en fait pendant une longue période je vais être captivée par un truc jusqu'à ce que je passe à un nouveau sujet qui va aussi me captiver pendant des mois et des mois. Donc c'est assez voilà, fluctuant et aléatoire au cours de mes insomnies en fonction des sujets qui se présentent.
Insomnie. Mais et alors, est-ce que vous, il y a des choses dans les sciences, dans ces sujets, dans ces monomanies, est-ce qu'il y a des choses que vous implémentez dans votre exercice d'avocate?
Je sais pas s'il y a des, je sais pas s'il y a vraiment des transpositions que je peux faire entre ces diverses passions qui sont quand même pas du tout liées au droit, mais je pense qu'il y a quand même un lien dans la curiosité, dans le. En fait, j'ai l'impression surtout que j'ai une passion pour le réel, pour les gens, pour la vie. C'est pour ça que par exemple, je suis pas très ciné en fait en soi, mais j'adore les documentaires. J'adore ce qui se rattache à la vraie vie, au quotidien, aux gens quoi. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Après, je sais pas à quel point ça peut avoir des implications dans mon métier d'avocat, ou est-ce que vraiment j'en ressors quelque chose de ces passions. Mais j'ai l'impression qu'en fait, tout est quand même lié avec. Ouais, cette idée d'être passionnée, intéressée par les hommes et par le vivant, quoi. Pas par ce qui est imaginaire. Et c'est pour ça que je suis assez peu. J'ai pas du tout de culture, enfin pas de culture artistique, mais j'ai pas de passion vraiment artistique, etc. C'est peut-être des choses qui vont moins me concerner que là. Je pense que j'ai vraiment foi en l'être humain et que c'est quelque chose qui me passionne.
Ouais. Et quelle est votre dernière joie?
Ma dernière joie, vendredi, j'ai vu ma grand-mère que j'avais pas vue depuis un moment. Elle a 95 ans, ma petite Gillette, et elle nous a invités au Moulin Rouge parce que c'est un de ses rêves qu'elle a toujours voulu accomplir. Donc voilà, très mignonne. Elle est très drôle aussi, ma grand-mère, à 95 ans. Elle s'est mise toute seule à Internet, elle s'est fait son compte Facebook, elle se fait ses commandes Amazon toute seule. Elle est quand même hyper dynamique, etc. Donc voilà, ça m'a fait plaisir d'être avec mes frères et sœurs, parce qu'on est une grande famille. On a 6 enfants avec ma grand-mère, etc. Donc voilà, ça, c'était un beau moment de joie d'être tous ensemble en famille pour aller au Moulin Rouge.
Et qu'est-ce que vous portez sous votre robe?
Qu'est-ce que je porte sous... Alors, ça, c'est une bonne question. En termes de vestimentaire,
alors là, c'est réponse libre.
Ouais.
J'ai tout comme réponse. Hein.
Ouais, mais c'est assez marrant parce qu'en fait, je me suis fait plein de fois la réflexion. Moi, c'est vrai que j'ai pas... Enfin, voilà, je suis pas hyper pomponnée, maquillée, etc. J'ai jamais acheté de paire de chaussures qui coûte plus de 200 euros. Enfin, voilà, je suis pas du tout dans l'apparence. Enfin, au départ, en fait, l'apparence, etc. C'est pas des trucs du tout importants pour moi. Et moi, j'ai toujours été dans l'idée que... Voilà, je suis aussi compétente en basket qu'en boutin, quoi. Et en fait, un jour où je défendais des toughers, justement, des organisateurs de rave party, qui sont pourtant des mecs qui sont censés être ouverts, dont la plupart ont des crêtes ou des dreadlocks, etc. Enfin, c'est pas des mecs qui performaient. Et qui m'avaient dit, mais vous avez le droit de venir au tribunal en basket? Et donc, je me suis rendu compte, en fait, de ce décalage entre l'image qui est censée renvoyer l'avocat et ce qu'en fait est l'avocat au quotidien, quoi. C'est-à-dire que moi, ça me pose pas de difficulté quand on court partout et qu'on a 3 audiences en même temps ou des comparutions immédiates et que je vais passer 15 heures à courir partout, d'être en basket avec un style assez détendu. Mais je me rends quand même compte qu'il y a plein de gens qui ont quand même besoin d'avoir l'image de l'avocat comme un peu le notable de l'époque et où du coup, il faut être très sophistiqué, très machin, etc. Et c'est pour ça que j'ai souvent l'impression de pas correspondre à l'image que les gens se font de l'avocat.
Mais du coup, est-ce que vous pensez que... Parce que ça, c'est drôle. Sur le point de vue vestimentaire, ouais. Je crois que c'est un invité sur deux, ça va changer. Ça va être celui qui dit, moi, mes clients, même quand ils sont hyper détendus, ils attendent de moi que je sois bien habillée et stéréotypée avocat. Et il y a les autres qui disent, moi je m'habille comme je suis, et de toute façon mes clients sont comme je suis, et ils m'acceptent comme je suis, et je suis pas, enfin, et ça marche comme ça, et voilà. Et vraiment, je crois qu'il y a les deux philosophies et les deux points de vue. Et vous, vos clients, celui qui dit oui, mais vous avez le droit de venir au tribunal, est-ce que c'est, non mais attendez maître, vous êtes quand même mon avocat,
non, je pense
à un moment, attendez, enfin, juste, faites un effort, ou est-ce que c'est juste une question et en fait la personne se rend compte que ben oui, on peut être avocat, avoir des baskets, ouais, non, fine enough quoi.
Oui, non mais c'est ça, je pense que c'est plutôt, je pense que là pour le coup le pire qui m'avait posé la question, c'est plutôt que c'était sa première fois devant un tribunal, etc., qu'il avait un peu l'impression, vous savez, comme quand vous êtes convoqué à l'école ou pour passer un examen, etc., et donc peut-être qu'il s'attendait pas du tout à trouver une avocate qui avait des baskets aux pieds. Mais moi c'est aussi, enfin, je suis moi-même, quoi. C'est-à-dire que je vais pas,
oui,
je vais pas.
Et vous, est-ce que vous, du coup, c'est ce que, ouais, vous allez y répondre. Non, vous allez pas vous mettre à mettre des boulots boutins.
Alors, j'ai pas les moyens pour l'instant de m'offrir des boulots, des boutins, mais si quelqu'un veut m'acheter des boutins, je pourrais les porter avec plaisir.
Alors, du coup, quelle pointure?
Je fais du 36-37 pour les auditeurs. Alors. Pour le coup, alors c'est sûr que je fais attention si j'ai des rendez-vous avec des nouveaux clients, etc., en fonction de... Et aujourd'hui, je suis bien habillée. Hein,
mais oui, j'allais vous dire, pour une fille pas du tout coquette, vous avez les ongles tout bien faits.
Non, mais quand même. Mais après, moi, je considère que je vais pas changer qui je suis, en fait, pour être avocat. Et j'ai pas envie, en fait, justement, d'adopter un peu le costume type ou de changer qui je suis. Et en fait, c'est ça aussi, quand j'en parle avec des confrères, etc., parce qu'il y a souvent cette discussion. Autant, il y a plein de confrères qui vont être en basket, etc., attends, j'avais déjà eu qui m'ont dit « Non mais attends, tu peux pas aller en jean devant le tribunal ?» Mais en fait, les mecs, ils s'en foutent de comment je suis habillée, a priori. Ce qui est intéressant et ce qui est important et pour les juges, le procureur et les clients, c'est de savoir ce que je vais raconter. Et concrètement, mon intelligence est la même que j'ai ma vieille paire de baskets ou des loups boutins au pied. Donc moi, je suis partisane de rester comme je suis. Donc, et comme je suis, il y a des jours où j'ai envie d'être un peu mieux sapée, de mettre des talons et des jolies boucles d'oreilles. Il y a des jours où non, je vais y aller en basket et ça me pose absolument pas de problème. Mais si je sais que ça peut choquer, ça.
Formidable. Merci beaucoup, Marianne.
Je vous en prie. Avec plaisir.